bien, c'est parti pour le module 4, les nouveautés de clustering de Windows Server 2016.
Alors, on a déjà parlé un petit peu de cluster dans le module précédent qui parlait en fait notamment du storage replica, donc on ne va pas le rappeler. Deux autres nouveautés à retenir sur le cluster de Windows Server 2016, c'est ce qu'on appelle l'Operating System Rolling Upgrade. En gros, la mise à jour par étapes sur une sorte de tapis roulant de l'ensemble de nos clusters. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir mettre à jour un cluster 2012 R2 en 2016 sans avoir à créer un nouveau cluster à côté. Tous ceux qui ont fait du cluster me comprendront parfaitement. Le passage d'une montée de version se fait de mieux en mieux au fur et à mesure des versions de Windows, mais passe toujours par la création en fait, d'un nouveau cluster. Donc on enlève des nœuds du cluster ancienne génération, on recrée une nouvelle génération, puis au fur et à mesure, on déplace. Donc en fait, on casse l'ancien cluster pour créer un nouveau. L'idée maintenant, désormais, c'est de plus faire ça, c'est de mettre à jour le cluster sans avoir à le casser. On comprendra tout de suite l'intérêt. Et le Cloud Witness, on en parle juste après. Donc, le processus d'un cluster OS Rolling Upgrade Process, c'est de partir d'un cluster Windows Server 2012 R2. Donc, tous les nœuds tournent en 2012 R2. Le workload, ce que j'en appelle le workload, je n'ai jamais trouvé en fait, le terme exact pour le... C'est la charge, c'est l'applicatif exécuté. La charge utile, l'applicatif exécuté, derrière, on pourrait dire. C'est par exemple, dans un cluster Hyper-V, c'est les machines virtuelles. Dans un cluster SQL Server, c'est les instances de base de données SQL Server. Voilà, c'est ça le workload. Donc, il faut que le workload, effectivement, supporte cette fonctionnalité. Donc, en gros, que l'Hyper-V ou derrière la base de données soit capable de fonctionner sur les deux OS 2016 et pas 2016 et 2012. Donc, on a introduit ici la notion de niveau fonctionnel lié au système d'exploitation, donc le niveau fonctionnel de cluster, ce qui rappellera à certains les niveaux fonctionnels d'Active Directory. Effectivement, dans un Active Directory, aujourd'hui, on peut avoir un Active Directory fonctionnel en niveau 2003, mais avoir à l'intérieur un mix de contrôle de domaine en 2003, 2008, peut-être 2012 R2. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir en fait le niveau fonctionnel et le petit dénominateur commun, finalement, de toutes les versions qui sont au sein d'un ensemble, l'ensemble étant ici un cluster. Donc, pour migrer le workload, la première chose qu'on va prendre, c'est que donc, on va dire, sur le premier nœud à migrer, on va déplacer le workload ici, si on prend le cas de machine virtuelle, on déplace les machines virtuelles par l'ice migration du nœud vers les autres nœuds. Une fois qu'il n'y a plus de machine virtuelle qui tourne, donc le serveur entre guillemets n'a pas de tâche utile à un instant T, donc on appelle ça du draining, eh bien on va sortir ce nœud du cluster. Donc on le sort du cluster et on va lui installer, donc le réinstaller en Windows Server 2016. On installe la configuration des prérequis au workload. Donc si on avait avant un serveur Hyper-V, eh bien, sur ce serveur 2016, on va installer les rôles Hyper-V. D'accord. Et les rôles du cluster également. On réinjecte ce serveur 2016 dans le cluster 2012 R2. On peut le faire via la console de gestion du cluster, on peut le faire en PowerShell, bien entendu. Et ensuite, donc là, le niveau fonctionnel du cluster, vous l'avez compris, il reste en 2012 R2, parce qu'on a encore des nœuds en 2012 R2. On va ensuite redéplacer par Live Migration le workload. Ici, c'était les machines virtuelles. Donc les machines virtuelles étaient sur 2012 R2. Elles vont se déplacer sur 2016, il n'y a pas de problème, on supporte ça parfaitement depuis déjà quelques temps. On fait la même opération sur l'ensemble des nœuds, c'est-à-dire qu'on leur enlève toutes les machines virtuelles, on les sort du cluster, on les met à jour en 2016, on les réinjecte dans le cluster. On reprend les machines virtuelles et puis on tourne comme ça jusqu'à finir et avoir un cluster où on n'a que des nœuds qui sont Windows Server 2016. Le niveau fonctionnel ici est toujours du Windows Server 2012 R2. Donc à tout instant ici, on peut venir rajouter un autre cluster qui sera 2012 R2. Donc là, l'idée finalement de tout ça, c'est d'avoir des clusters mixtes avec différentes technos pour faire des upgrades plus faciles et pouvoir revenir en arrière si finalement on s'est aperçu que certains nœuds de cluster, enfin certaines applications en 2016, elles ne passent pas bien. Donc c'est vraiment d'avoir cette souplesse. Une fois qu'on est sûr que tout marche bien, et qu'on n'a que des nœuds en 2016, et bien on va faire une élévation du niveau fonctionnel, comme on peut le faire dans Active Directory depuis des années. Donc via une commande PowerShell, le Dead Cluster Functional Level, et donc ça va vous rajouter les fonctionnalités apportées par le cluster 2016. Et donc à cet instant-là, comme on a un niveau fonctionnel 2016, ça devient le plus petit dénominateur commun, et on ne pourra plus rajouter de dots en Windows Server 2012 R2, vous l'aurez compris. Alors, autre fonctionnalité dont on peut avoir l'usage quand on a des clusters, par exemple, où on n'a pas de ressources partagées et on est sur du géocluster avec des nœuds répartis à différents endroits. Prenons le cas, par exemple, d'SQL Always On. Donc, on réplique des bases SQL Server sur différents nœuds de clusters, chacun à leur base qui tourne sans avoir un stockage partagé. Imaginons que j'ai 4 nœuds de cluster. 2 sur le site numéro 1, 2 sur le site numéro 2. Qu'est-ce qui leur permet de déterminer à un instant T que le site actif est bien toujours présent? Donc imaginons qu'il y ait une coupure de réseau entre les deux, ou qu'il y ait un site qui tombe en disaster recovery, par exemple, enfin, qui a un désastre majeur. Quand un cluster doit choisir de qui redémarre, il y a un système de vote. Mais quand on a de la parité n'est jamais, n'est jamais pratique, hein. Quand on est du 50-50, comment on peut savoir que l'autre est encore en vie, ou qu'en fait il y a simplement une coupure réseau vis-à-vis de la personne en face? Problématique, hein. Donc, dans Windows Server 2012, on a commencé à introduire la notion de File Share Witness. Donc, l'idée, c'était d'avoir un troisième site sur lequel on mettait un témoin. Et donc, si le site numéro 1 était plus disponible, eh bien, le site numéro 2 pouvait le vérifier, par exemple. Donc, il n'arrivait pas à le contacter. Mais si le site numéro 2 arrive à contacter le site numéro 1, eh bien, l'ensemble fait un nombre pair supérieur à ce qu'on a sur le site numéro 1. Ils votent ensemble, disent nous, on est 3, on considère qu'on est majoritaire, donc on considère que là-bas, c'est mort. Et on va redémarrer le cluster ici. Voilà. Donc c'est cette problématique-là. La problématique, c'est que tu vas comprendre tout de suite, c'est que si on te dit, bah, fais un jeu cluster, en fait, il te faut 3 sites, parce qu'il te faut un troisième témoin qui est à l'extérieur sur un site séparé du premier. Bon, ça devient un petit peu compliqué, un petit peu cher. Et surtout qu'en fait, finalement, le troisième site ici, il sert juste pour un témoin, le cas échéant, où il y a un gros changement dans le cluster, et qu'il faut réarbitrer et dire qui est celui qui démarre l'activité, quoi. Donc on s'est dit, bah, c'est dommage, on a plein de data centers dans le monde qui existent, pourquoi on n'utiliserait pas les data centers d'Azure pour faire ce troisième ce témoin, entre guillemets, et ne pas avoir finalement à demander à nos clients d'avoir un troisième site géographique pour pouvoir faire ce type de géocluster un peu particulier. Bah, on a un data center dans Azure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une ressource dans Azure de stockage très petite, qui va quasiment rien coûter, et qui permet de servir en fait de troisième partie pour faire le témoin, et du coup d'avoir un arbitrage qui soit propre, et on ne soit plus sur du 50-50, mais on est sur du 60-40, et à partir de là, effectivement, le cluster redémarre mieux. Donc ça s'appelle du Cloud Witness, et c'est simplement en fait un blob de stockage Azure standard, donc le coût est super faible, parce que ça contient quelques petites données, qui sont en gros le quorum, hein, enfin l'équivalent du quorum, qui vont contenir les données de mise à jour quand il y a un état de changement du cluster, donc c'est rien, ça va coûter peut-être quelques centimes d'euros par mois, à tout casser. C'est nativement inclus dans le cluster failover de Windows Server 2016. Donc il faut être au niveau fonctionnel Windows Server 2016 pour faire ça. Et vous l'aurez compris, il faut également un accès Internet depuis les nœuds, parce qu'ils vont pouvoir parler en fait à ce stockage dans Azure via une connectivité HTTPS. Voilà, c'est ça le Cloud Witness, c'est la troisième nouveauté du cluster dans Windows Server 2016. Les scénarios d'usage, clairement, c'est le géocluster ou les failover clusters sans stockage partagé. Est-ce que le Horizon, je vous le dis tout à l'heure, les DAG, les Exchange DAG également, c'est valable. Et ça peut servir également pour les failover de clusters dans des machines virtuelles, qu'elles soient exécutées dans du cloud privé ou dans du cloud public, par exemple, sur Azure AssureIAS. Voilà, c'est ça l'usage du Cloud Witness.
Et bien, merci pour ce tour d'horizon du cluster dans Server 2016.